Chapitre 49. Château Rouge, à 21h30. Le monde noir dans la nuit. Ses commerces de tissus, de bagages, ses épiceries, poissonneries, boucheries, ses coiffeurs dont certains étaient encore ouverts. Les prostituées nigérianes à l'assaut des trottoirs formaient un ballet incessant de silhouettes aguicheuses. Ça riait, criait, se bagarrait parfois entre filles, se lançait des coups de poing et s'arrachait les cheveux. Puis s'approchaient les ombres trapues, surgies de Barbès ou des rues perpendiculaires. 10 secondes de discussion et les couples disparaissaient. Quelques-uns besognaient directement entre des poubelles au fond des impasses. La plupart copulaient dans les cages d'escalier ou les halls d'immeubles. Les habitants excédés ne cessaient d'ôter les cales qui maintenaient les portes entrebâillées, changeaient en permanence les codes d'accès, mais rien n'y faisait. Le matin, ils retrouvaient des Kleenex usagés jusque sur leurs paillassons. En face, au niveau de la bouche de métro, c'étaient les marabouts, les voyants, les guérisseurs en boubou, avec leurs chapelets et leurs petits chapeaux, qui alpaguaient les passants, leurs tracts pleins de promesses à la main. Professeur Moreau, maître Samou ou Keba, dotés de dons prodigieux, capables de grandes protections ou de jeter des sorts. À la station Barbès, plus loin, se tenait le marché aux voleurs. Avant, les vieux du coin y vendaient des fripes ou des marchandises usagées. Désormais, la place appartenait à des jeunes ultra-agressifs qui refourguaient passeports, chéquiers, montres, cartes grises et dealaient à la vue de tous, effrontément. Les flics affectés au quartier, les îlotiers, évitaient le secteur comme la peste et la RATP bloquait souvent l'entrée du métro aérien. Collés l'un à l'autre, Franck et Florence traînaient le long des façades, leurs doigts gras de la sauce du kebab qu'ils avalaient. Ils étaient pareils à des amoureux, et cette proximité simulée avec sa collègue mettait le jeune inspecteur mal à l'aise.
« On ferait un couple sympa, qu'est-ce que t'en penses ?»
Elle le narguait et en riait. Ça faisait un truc de plus à ajouter à la liste déjà importante des choses qu'il devrait taire à Suzanne. Il imagina aussi sa fiancée en train de l'attendre dans leur appartement, seule. Une situation qui ne serait peut-être pas si exceptionnelle que ça. Supporterait-elle ses absences nocturnes et impromptues, ses week-ends d'astreintes, ses congés qui sauteraient ? Une voix soudain dans leur dos. L'odeur d'une haleine chargée de poivre gris et de rhum.
« Vous avez la blanche ?»
Les flics se retournèrent. Le Cubain, taille moyenne, était vêtu d'un blouson en sky à la fermeture remontée jusqu'au menton. Un type nerveux, sur ses gardes, qui se dandinait comme un boxeur.
« T'as l'info ?» répliqua Florence.
« Restez là et rejoignez-moi rue de Panama dans 10 minutes.
Où exactement dans la rue ?»
Sans répondre, les mains dans les poches, il passa devant eux et disparut d'un pas vif. Les deux équipiers finirent leur sandwich. Florence en profita pour jeter un œil alentour. Le Corse se planquait quelque part, avec un toki pour seule compagnie. Serge n'avait pas insisté pour venir. Charcot savait qu'il était secrètement parti rendre visite au légiste pour l'affaire des disparus. L'inspectrice connaissait le coin, à l'instar de tous les membres de la PJ ayant quelques années de métier dans les pattes. Ils parcoururent la rue Poulet, puis une partie de la rue des Poissonniers, et s'engagèrent rue de Panama. L'indique siffla entre ses dents. Il s'était faufilé dans une bâtisse collée à une boutique de perruques africaines. Il repoussa le bâton derrière eux et appuya sur un minuteur sans boîtier pour éclairer. Charcot avait la gorge serrée. Il ne se sentait pas tranquille, ainsi confiné dans un hall sordide, aux câbles électriques dénudés, et où les entrées des appartements étaient protégées par des portes blindées. Florence aussi était aux aguets. Le Cubain tendit vers celle-ci ses doigts épais comme des havanes.
« File-la-moi !»
L'inspectrice lui remit un sachet attaché avec un élastique. L'homme scruta la poudre cristallisée et la glissa dans son blouson.
« Des immeubles vont bientôt être détruits, à l'angle des rues de la Goutte d'Or et des Islettes. Ils vont y construire un nouveau bureau de poste et une crèche pour les mômes. Les bâtiments ont été murés il y a quelques semaines, mais il y en a un qui est squatté par des toxicos.
C'est là-bas que zone Zéphirin ?
Il y a de grandes chances. Je sais qu'ils cherchaient à se fournir en crack il y a 15 jours. Et c'est là-bas qu'ils sont, les craqueurs. Défoncés du matin au soir. Des vrais morpions que les flics ont déjà essayé de déloger, mais il n'y a que les grues qui les dégageront de là.
Comment on pénètre à l'intérieur si c'est muré ?
Par une fenêtre, vous pourrez pas la manquer. Je me casse. Mes salutations, Apollo. »
Une fois de plus, il disparut en coup de vent. Florence extirpa son toki Motorola de son sac et communiqua l'information à Santucci.
« Ok, on y est dans 10 minutes. On se retrouve sur place. »
Elle coupa la conversation, jeta un œil à sa montre, puis s'adressa à Charcot.
« On fait vite. J'aimerais faire un tour au millionnaire ce soir. » Elle paraissait inépuisable. D'un pas alerte, ils s'enfoncèrent dans les ruelles obscures où erraient des ombres furtives. Les restes des grossistes, et notamment des déchets de viande, rendaient les trottoirs glissants. Des affichettes ornaient les murs. « Goutte d'or, goutte de vie, ne laissez pas notre quartier devenir un ghetto. Égo, espoir, goutte d'or. » Plus loin, un autre annonçait un concert public pour le réveillon du 31, Square Léon. « Naboudop et son ballet africain Saftekeku. » Ils remontèrent des rues aux façades lépreuses, certaines éventrées à coups de tractopelles. Depuis des années, on évacuait les immeubles en péril, on expropriait des milliers d'habitants des hôtels meublés bon marché, devenus insalubres. L'office des HLM les déplaçait vers des logements sociaux ou des foyers. Le maire de Paris, Jacques Chirac, voulait améliorer l'image de cette zone de Paris pour lutter contre les extrémismes. Lui qui avait choqué l'opinion l'été précédent en assimilant la goutte d'or à des termes nauséabonds. Enfin, ils atteignirent la rue des Islettes. Florence désigna le numéro 12. « Dans ton nord, ta germinale, ici, on a l'Assommoir. C'est là que vit Gervaise dans le roman de Zola. Et le 9, juste là, c'est le fameux lavoir du bouquin. La misère à l'état pur existe, mon gars. Elle est plus que jamais présente derrière ces murs, même un siècle après Zola. » Ils rejoignirent Santucci, qui patientait comme convenu. Un groupe de jeunes les épiait, à une cinquantaine de mètres de là. « Ils nous embêteront pas, » fit le Corse. « Ils veillent simplement à ce qu'on ne dérange pas leur business. » Il sortit une maglite, s'approcha d'une ouverture creusée dans les parpaings de l'édifice face à eux, éclaira l'intérieur d'une pièce pour vérifier qu'il pouvait y accéder sans danger. « Entrons en enfer. »